Et moi, je vais vous lire un texte d'Irène Terrel qui nous manque énormément aujourd'hui, mais qui a eu vraiment un empêchement familial et donc elle n'a pas pu venir. Donc, un empêchement familial absolu m'interdit d'être parmi vous ce soir, ce dont je suis tout à fait désolée, évidemment. Du coup, je vous soumets ces quelques réflexions écrites à la hâte. Ce que je voudrais tout d'abord est stigmatiser, c'est l'arrogance de ce pouvoir politique. La première manifestation de cette arrogance s'est traduite par l'arrestation collective en avril 2021 des 10 réfugiés concernés par cette procédure d'extradition. Arrestation stupéfiante 40 ans après les faits, 30 ans après l'asile octroyé au nom de ce qui a été qualifié dans les années 80, par simplification de langage, doctrine Mitterrand, mais qui est devenue au fil des décennies tout simplement la politique internationale de la France. Rien d'étonnant dans les années 80 à la naissance de cette doctrine, puisque je rappelle que le refus d'extradition en matière politique était expressément prévu dans les programmes de François Mitterrand et que de surcroît, les conventions internationales applicables à ce type de faits prévoient également une phase politique au terme de laquelle, en cas d'accord à l'extradition donnée par les autorités judiciaires, les pouvoirs exécutifs décident in fine d'extrader ou pas. Il s'agit donc d'un principe, d'une pratique prévue, y compris par les textes internationaux. Escroquerie intellectuelle au plus haut sommet de l'État à prétendre, pour justifier ces scandales, qu'on appliquerait cette doctrine en arrêtant des personnes que la France a au contraire asilées pendant 4 décennies et dont toutes les autorités, notamment préfectorales, connaissaient parfaitement les dossiers. En réalité, aucun tri et aucun critère soi-disant de gravité. On a interpellé les 10 derniers et c'est tout. La deuxième manifestation de cette arrogance, c'est l'instrumentalisation par ces mêmes pouvoirs politiques d'un pourvoi en cassation contre les décisions rendues par la Cour d'appel de Paris. Tout d'abord, je voudrais préciser que durant 30 années de pratique de l'extradition, je n'ai jamais eu un seul pourvoi en cassation dirigé contre des refus judiciaires d'extrader, qui pourtant ont été nombreux. Ce type de pourvoi n'est d'ailleurs théoriquement prévu que dans l'hypothèse d'une erreur grossière des droits, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Pourvoi annoncé, c'est le comble, dans les minutes qui ont suivi la décision, c'est-à-dire sans en connaître aucunement les motivations et de surcroît par le président de la République lui-même au sommet de l'État. Belle image du respect de l'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs. Cette arrogance politique se manifeste encore par l'intervention prévue par aucun texte et donc en dehors de toute légalité, dans le cadre de la procédure de cassation, d'un avocat représentant l'État italien, lequel État n'est pourtant absolument pas parti de la procédure. Mais malgré cette arrogance massive du politique et les armes utilisées, contrairement au monologue de Javert dans Les Misérables, tout n'a pas été possible et la justice a fait acte d'indépendance et de résistance. C'est ainsi que le droit devient ici une forme de résistance face aux petits arrangements entre États. La Cour d'appel de Paris, en effet, a dit non. Elle a fondé ses 10 refus d'extradition sur 2 principes fondamentaux posés notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits humains. Tout d'abord, l'article 8. Cet article protège un droit fondamental, à savoir les droits de chacun à sa vie privée et familiale. Dans l'histoire qui nous réunit aujourd'hui, il s'agit d'une vie privée et familiale construite publiquement pendant 40 années dans notre pays grâce à l'asile octroyé par la France. La Cour a estimé que compte tenu du délai séparant les faits, dont elle n'a pas méconnu la gravité, et la date des interpellations d'avril 2021, la durée de cette vie privée familiale et son ancrage dans la société française devaient primer sur une peine dont la finalité ne pouvait plus, et en aucun cas, correspondre à une quelconque protection de l'ordre public. Ainsi, dans cette hypothèse, l'atteinte portée à la vie privée familiale par une éventuelle extradition était totalement disproportionnée. En reconnaissant aujourd'hui la valeur de la vie privée et familiale de ces réfugiés, la Cour a juridiquement consacré par application des principes supérieurs que l'on vient d'évoquer l'asile que la France leur a octroyé il y a 40 ans. Ensuite, sur l'article 6 qui consacre les droits opposés équitables et en définit les critères. Pour ceux de ces réfugiés qui ont été jugés en leur absence, les procès équitables reposent notamment dans ces procédures sur deux exigences qui, aux yeux de la Cour d'appel, ne sont pas remplies. Tout d'abord, d'avoir systématiquement droit dans une procédure criminelle à un nouveau procès lorsqu'on est accusé contumace, et c'est quel que soit le motif de l'absence. Or, l'Italie, malgré une évolution législative de sa procédure de contumace, dictée par plusieurs condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme, continue de subordonner, comme la Cour d'appel l'a détaillé dans ses décisions, la possibilité d'un nouveau procès à une série de conditions qui excluent tout éventuel nouveau jugement pour les réfugiés italiens. Quelles que soient ces modifications, cette législation italienne reste donc pour la Cour insuffisamment protectrice et ne respecte pas les critères du procès équitable. Ensuite, toujours au regard des exigences des procès équitables, la Cour a estimé que même en cas de nouveau procès, les délais qui séparaient les faits de l'éventuel tenu, d'ailleurs impossible, de cet hypothétique nouveau procès, les priveraient de tout caractère équitable. Dépérissement des preuves, mort des témoins, mort de quoi coucher, etc. Pour conclure, et comme je suis aujourd'hui raisonnablement optimiste sur l'issue définitive de cette scandaleuse et tragique affaire, on peut espérer que, paradoxalement grâce à l'acharnement de ses pouvoirs politiques, c'est finalement la plus haute juridiction française, à savoir la Cour de cassation, qui entérinera définitivement l'asile des réfugiés italiens en rejetant les pourvois qui lui sont déférés. Si jamais tel n'était pas le cas, alors la bataille que nous continuerons de mener avec vous tous et que nous gagnerons sera d'emblée renforcée par les 10 arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris.